Ladies and gentlemen, if you would be kind enough to take your seats, we'd like to get this session started as quickly as possible.
Messieurs, dames, je vous demande de vous asseoir. Nous allons commencer la séance dès que possible, parce qu'il reste encore beaucoup de choses à faire aujourd'hui. Merci.
The CC folks could take their seats.
Nous vous demandons de vous asseoir, s'il vous plaît, pour que nous puissions commencer.
Please do sit down, everybody, so that we can get started.
Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît, pour que nous puissions commencer.
Yeah, this is actually just getting
on. We're just waiting for Dr. Crocker. Hint. Why don't you start?
Paging Dr. Crocker. Paging.
Où est le Dr. Crocker?
You sure you've got enough room on that side of the table, Steve?
Good morning.
Bonjour. Steve Crocker au micro. J'ai choisi de m'asseoir ici de manière à ce que tout le monde puisse vous voir. Mais je vais me retourner un instant. Bienvenue à tous. Nous sommes à la nouvelle présentation, au nouveau format de nos réunions. Et l'objectif, c'était d'encourager une focalisation continue et peut-être plus rigoureuse, sur certains thèmes spécifiques. Et nous verrons un petit peu après si cela fonctionne bien. Ceci étant, nous avons du conseil d'administration Rinalia, Asha, Chris, Mike. C'est tout, me semble-t-il ? Oui, j'ai présenté Asha. Suzanne souhaitait être présente, mais elle avait également une réunion RSAC au même moment. Nous pensons qu'il y a suffisamment de personnes. Il reste des sièges vides, mais je pense que ça suffit pour vous, n'est-ce pas? Je rigole. Alors, je passe la parole à Steve. Steve au micro. Est-ce qu'il y a d'autres membres du conseil d'administration dans la salle? Il serait bon de savoir qu'ils se lèvent pour qu'on sache où ils sont. En fait, c'est facile de les reconnaître parce qu'ils ont été battus par tout un tas de problèmes, n'est-ce pas? Les membres du conseil sont là. Ils prêtent attention à ce que vous dites. Ils sont pratiquement tous là, je crois. Merci, Steve. Byron, au micro. On va voir si cette expérience fonctionne. En tout cas, c'est innovant, mais j'attends avec impatience le feedback là-dessus. Merci de nous rencontrer. Nous avons un ordre du jour relativement complet. Tout d'abord, un rapport et une mise à jour du cadre du groupe de travail sur le cadre d'interprétation qui a été mené par Keith et une discussion sur le travail du CWG et du CCWG et sur les questions spécifiques relatives à la communauté CCTLD. Et enfin, le dernier point sera une mise à jour sur le SOP, le plan opérationnel stratégique qui sera mené par Giovanni. Nous avons également le président nouvellement élu du LAC TLD qui participera à la discussion sur le CWG. Ceci étant, je vais passer la parole à Keith qui va nous faire une mise à jour sur le FOI, le cadre d'interprétation. Keith au micro. Je crois que au cours des trois dernières années, nous nous présentions à ces réunions avec le conseil d'administration pour faire un rapport sur les avancements que nous avions faits en termes de cadre d'interprétation. Et cette fois-ci, nous demandons au conseil d'administration de nous faire une mise à jour sur la mise en application. Nous avons envoyé le rapport définitif au conseil d'administration et nous avons besoin de ces commentaires. Donc nous attendons de voir ce qui s'est passé en termes de mise en œuvre. Et Biggie, qui était vice-président du groupe, ainsi que moi-même, nous sommes disponibles s'il y a besoin de détails sur la mise en œuvre ou de clarification. Chris Dispen au micro. Merci, Keith. Oui, c'est une joie de pouvoir dire que nous avons ces téléconférences bimensuelles qui nous ont permis de mettre ceci au point. En ce qui concerne les questions du conseil d'administration, il y a une résolution qui permettra d'accepter ceci de manière officielle. Et si je me souviens bien, Steve a écrit à Byron et il a expliqué que nous travaillons de manière officielle, mais nous vous demandions de former davantage de groupes pour travailler avec le personnel sur la mise en œuvre des différents points. Donc ça, c'est quelque chose qui aura lieu de manière officielle peu après l'acceptation de la résolution. Donc il y a un certain nombre de résolutions qui seront engagées jeudi. Donc j'aimerais utiliser cette opportunité pour dire que, comme c'est souvent le cas avec les CCNSO, nous ne faisons pas beaucoup de choses au niveau de l'ICANN, mais lorsque nous en faisons, du point de vue des CCTLD, c'est souvent très important. Et donc, encore une fois, il a fallu très longtemps, je crois qu'il a fallu 6 ans pour en arriver à un point alors que les choses semblaient relativement claires. Donc, en termes de RCC 91 et de principe du GAC. Nous y arrivons lentement avec l'implication des responsables CCTLD qui sont à l'intérieur et à l'extérieur à l'intérieur. Et donc, je crois que nous pouvons être très fiers de ce que nous avons réussi à faire. Steve, au micro. J'aimerais faire écho aux félicitations exprimées par Steve, parce que je sais que le travail a été colossal. Et j'aimerais suivre avec 3 questions. Pour les personnes qui n'ont pas été très impliquées dans ce projet, quelles ont été les améliorations cruciales du 1591? Deuxièmement, quelles sont les lacunes? Et troisièmement, ceci ne se produit pas de manière isolée. Il y a un processus de transition avec la proposition du CWG qui ensuite donnera suite à la création d'un PTI. Donc, quelle est l'interaction entre ce qui émerge de ce processus et ce qui émerge du cadre d'interprétation? Donc, en fait, 3 questions. Nouvel intervenant au micro. Je crois que... Keith Davidson au micro, pardon. Je crois que la lacune principale, c'est donc le retrait des CCTLD qui ne correspond pas au RFC 1591. Et donc, il y a besoin d'un développement de politique. Et donc, le groupe du cadre d'interprétation n'a pas pu s'occuper de ceci parce que cela dépassait sortait de leur mandat. Mais je crois que les choses sont relativement claires. Et on pourra noter, dans le cadre de la transition, qu'il existe cette lacune, qu'il y a un besoin de développer une politique aussi rapidement que possible dans le temps. Il y a également la question du mécanisme de recours auquel on fait référence dans le RFC 1591 et qui n'a jamais été appliqué dans le terme de la redélégation. Et donc, ceci est difficile et nécessitera pas mal de temps. Les leçons tirées du processus sont que cet exercice de développement de consensus est relativement long et donc certaines des leçons que nous avons tirées, c'est que s'engager à se retrouver à différents moments, étant donné les différences horaires dans le monde entier, prendre des décisions sur la base d'un appel téléphonique, ce n'est pas forcément facile. Alors, la première question, Steve au micro, la première question, c'était sur l'amélioration. La deuxième, c'est la lacune, donc vous y avez répondu. Et la troisième question, c'était quelle est l'interaction entre ce cadre d'interprétation qui a émergé au fil du temps et l'intrusion tout d'un coup, à cette étape de la transition où nous en sommes, quelle est l'interaction, ou est-ce qu'il y en a une, entre le cadre d'interprétation et la transition? Je crois que l'ambition, c'est que le cadre d'interprétation permettra d'améliorer les résultats et à donner davantage de couleurs, davantage de détails. Cela nous permettra de passer en revue de manière rétrospective les rapports du conseil d'administration sur les redélégations, ainsi que de comprendre le cadre d'interprétation sur lequel nous travaillons de manière plus claire. Bien sûr, il y a toujours un petit peu le flou qui existe au niveau local en termes de par rapport aux questions juridiques. Et il y a toujours cette difficulté de comprendre le système juridique local et ce que vont faire les gouvernements locaux, ce que cela signifie. Et c'est la question en termes de décision. Steve au micro. Ce qui est clé en termes de transition, c'est qu'il y a la création du PTI, de cette organisation subordonnée. Et donc, qu'est-ce que vous imaginez en termes de cas d'interprétation? Est-ce que cela va avoir lieu au sein de cette organisation ou est-ce que cela va rester dans le cadre d'ICANN? Dans le cadre d'ICANN, de toute évidence. Et dans le cadre du personnel. Steve, au micro. Je reviens aux lacunes. La première lacune que vous avez identifiée, et j'ai une absence d'esprit, là. Ah oui, le retrait. Alors, quelle est la situation actuelle en termes de retrait? Il y a eu un certain nombre de situations par le passé, pour que tout le monde comprenne bien. Par exemple, lorsque la Tchécoslovaquie s'est divisée, donc République tchèque et Slovaquie, le CC a été retiré. Et malheureusement, lorsque la Yougoslavie s'est fragmentée, en l'espace de quelques années, on s'est rendu compte qu'il y avait en fait une certaine longueur dans l'utilisation de ces noms. Donc il y a eu une certaine discussion, je ne sais plus exactement à quoi ça correspondait, mais donc la politique a été de ne pas réutiliser de noms pendant longtemps. Donc est-ce que c'est ce dont on parle là ou est-ce que c'est autre chose, Keith au micro? C'est exactement ce dont je parle. En fait, c'est une période de 50 ans pour la redélégation des codes pays une fois qu'il a été retiré. Donc, l'ICANN a demandé une période plus courte et ceci ne correspond pas aux règles. Et donc, les CCTLD pensent que la CCNSO doit être responsable de ce genre de règles. Donc, entre-temps, je crois que les décisions du conseil d'administration se font de manière assez ad hoc. Et il serait bien d'avoir une approche commune. Et le cadre d'interprétation 1591 devrait correspondre. Et je crois qu'il est dans l'intérêt de tous, y compris dans l'intérêt des détenteurs actuels du nom. Oui, je crois que 50 ans, c'était un petit peu ce que l'on avait compris par rapport aux expériences passées. Donc j'imagine que, étant donné l'expérience, étant donné l'interaction entre les différentes agences, il semblerait que personne n'ait dit que 50 était un mauvais chiffre. Voilà pourquoi je dis que je pense que, effectivement, c'est une bonne décision. Je ne pense pas que cela prête à controverse. Je pense que ceci peut être fait peut-être en un an ou deux ans si le processus est plus lent. Mais je ne pense pas que la décision soit difficile à prendre. En tout cas, le mécanisme d'appel est peut-être plus complexe par rapport au 1591. Merci beaucoup. Est-ce que je peux ajouter que Becky et moi, nous attendons avec impatience de voir tout ceci se faire? Il attend avec impatience jeudi, n'est-ce pas? Alors, Renalia Abdulrahim, je suis nouvelle au conseil d'administration au nom de l'at-large. Le nouveau cadre d'interprétation n'est pas quelque chose qui définit le sujet pour tout le monde, mais pour les personnes qui appartiennent à un pays spécifique et qui sont au courant, eh bien, je pense que ce problème est important. La dernière fois que j'ai regardé le rapport FOI, c'était au moment de la période de commentaires publics. Et donc, j'ai aidé à rédiger la déclaration at large. Et je ne me souviens plus exactement. Moi aussi, j'ai un moment d'absence comme Steve. Il secoue la tête parce que... Mais la question, c'était de savoir si on pouvait traiter des litiges avec les CCTLD. Et en fait, il n'est pas très clair à quel niveau est-ce que cela... a lieu dans le terme du FOI. Est-ce que vous pouvez clarifier, parce qu'en fait, il y a plusieurs réponses par rapport à cette question. Renali au micro. Oui. Il y avait le cas .ml, donc pour la Malaisie. Et je voulais savoir ce que les parties pouvaient faire, à qui s'adresser, si ce n'est pas quelque chose qui peut être résolu de manière bilatérale. Chris Despen au micro. En fait, la question est très simple, mais la réponse est très compliquée. Ça dépend. Le bon endroit, ce n'est pas ici, justement. ce n'est pas au sein de l'ICANN. C'est une question qui dépend des pays. Les CCTLD et les codes qui représentent les pays sont liés à la souveraineté. Et donc, si un CCTLD marche sur les pieds d'un autre, c'est vraiment une question qui dépend des deux parties. Ceci étant, il est possible pour le personnel, les dirigeants de l'ICANN, de prêter assistance aux partis afin de les diriger vers ceux à qui il faut s'adresser. Il est tout à fait de notre ressort d'organiser la discussion. Maintenant, le litige en lui-même, c'est quelque chose qui dépend des partis. Donc nous avons un rôle à jouer en tant que gardien de la base de données des CCTLD. Nous avons un rôle d'organisateur, de facilitateur, mais il faut faire extrêmement attention de ne pas marcher sur les pieds en termes de souveraineté. Fadi Shehadi au micro. Je suis totalement d'accord avec ce que vient de dire Chris. Nous pouvons aider, nous pouvons prêter assistance, mais notre travail n'est pas d'adjudiquer, de prendre les décisions. Et donc, en ce qui concerne ce FOI, je crois que c'est un cadre d'interprétation qui est excellent. Cela démontre la maturité à laquelle nous en sommes au niveau CCTLD. Et du point de vue du personnel, cela est extrêmement utile parce que les choses sont beaucoup plus claires et les lacunes qui existaient par le passé ne sont plus des lacunes. Et en tant que membre du conseil d'administration, vous avez tout mon appui pour l'adoption de ce FOI. Donc je vous remercie énormément. Merci Fadi. D'autres questions, d'autres commentaires ? En ce qui concerne le FOI. Merci Keith, merci Becky. Alors, nous passons maintenant à l'autre point de travail. Donc, les questions spécifiques relatives à la communauté CCTLD en ce qui concerne le travail du CWG et du CCWG. Alors, j'aimerais introduire ce sujet en disant que la CCNSO a reçu de l'ICANN la mission de rassembler toute la communauté CCTLD dans le cadre de la discussion, ainsi que de s'investir dans les différents groupes de travail. Et donc, j'aimerais clarifier le fait que la CCNSO est un organisme basé sur des membres qui se portent volontaires. Nous avons environ 55 gestionnaires de code au sein de la CCNSO, mais étant donné les CCTLD qu'ils représentent, nous représentons une majorité. Mais nous ne représentons pas tous les CCTLD. Et donc, il est important pour nous, en tant que communauté assez large, de nous assurer que tous les membres de cette communauté peuvent participer. Et donc, notre responsabilité, à titre de CCNSO, était donc de nous assurer, de sensibiliser et d'impliquer un nombre important de gestionnaires de CCTLD dans le cadre de ce processus. Donc nous avons été très inclusifs, nous avons fait beaucoup d'efforts pour informer l'ensemble de la communauté sur ce point. Et donc, dans un certain sens, voilà où se trouve ma question pour le conseil d'administration. L'ICANN a demandé à la CCNSO et donc au conseil, dans le cadre de cette prise de décision, de les aider. Maintenant, que pense le Conseil de ce qu'a fait la CCNSO en termes de participation et en termes de sensibilisation? Comment est-ce qu'on mesure si nous avons fait suffisamment de travail? Mike Silber au micro. Je crois que le conseil d'administration n'a pas de point de vue là-dessus. Donc, c'est une question très importante et vous amenez ceci à notre attention. Les gens semblent penser En fait, ils ne se rendent pas nécessairement compte que d'autres entités, les communautés de bénévoles, les différentes communautés qui participent à la CCNSO ou qui sont présents aux réunions ICANN et qui donc participent au travail. Il y a certaines personnes qui ne sont pas présentes, qui ne participent pas à tout. Et donc, nous avons besoin que vous nous disiez si la sensibilisation est suffisante. Les gestionnaires CC ne sont pas... S'ils ne sont pas au courant de ce qui se passe, eh bien, il y a un problème. Et s'ils ne participent pas, cela veut dire que cela ne les intéresse pas. Mais... Bon, c'est ma réponse. Elle peut être un petit peu directe, mais c'est mon point de vue là-dessus. Chris Despen au micro. Je crois que Mike a raison. Étant donné que je suis impliquée, que j'observe ce que vous faites, je crois que vos efforts ont été très bons. Je ne vois pas ce que l'on peut faire d'autre. Il n'y a pas d'examen à réussir. Pour arriver à la CCNSO, il n'y a rien à signer. Vous pouvez simplement vous rendre aux réunions, participer entièrement et dire simplement « Je ne fais pas réellement partie du groupe, mais je suis là pour aider. » Nous nous sommes adressés à tous les gestionnaires de CCTLD. Nous avons une liste avec toutes les adresses e-mail. Je ne vois pas ce que l'on peut faire d'autre. Donc, personnellement, il me semble que nous avons fait tout notre possible. Byron, au micro. Je vais continuer un instant, Steve. Il y a eu différentes réunions en face à face, il y a eu différents webinaires, il y a les deux groupes de travail qui ont beaucoup communiqué. Nous avons eu beaucoup de rencontres sur les médias sociaux. Nous avons la liste mondiale de tous les gestionnaires CCTLD dans la base de données IANA. Il y a une liste qui est utilisée de temps à autre, assez rarement, qui nous donne une perspective mondiale, de manière à ce que lorsque les personnes obtiennent un message de cette liste, eh bien, c'est un message qui les concerne, donc les gens y prêtent attention. Et nous avons beaucoup travaillé avec nos collègues régionaux, et Eduardo, qui est notre président nouvellement élu du LAC-TLD, connaît bien, sait bien ce qui s'est passé dans la région. Donc, est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu ce qui se passe en dehors de la CCNSO pour communiquer sur cette question? Merci, Byron. Bonjour à tous. Eduardo Diaz au micro. Oui, en tant qu'organisation LAC-TLD, nous avons travaillé avec d'autres organisations pour contacter d'autres CCTLD pour leur expliquer ce qui se passe. Nous envoyons des notes spécifiques, personnalisées, pour les informer de ce qui se passe. Nous leur expliquons qu'il y a une discussion au sein de l'ICANN à laquelle ils sont invités à participer et nous nous assurons que dans tous les cas, les messages sont adressés aux bonnes personnes. Dans le cadre de notre organisation géographique. Donc, il y a l'Europe, en Asie, en Afrique, etc., dans les Caraïbes, nous faisons la même chose. Et donc, nous avons réellement cherché à impliquer davantage les gens. Nous essayons de discuter à l'interne, au sein de nos membres, davantage d'informations, des informations digérées. Et puis, nous fournissons également des traductions pour beaucoup des documents. Par exemple, au sein de l'ACTLD en espagnol, nous avons donc des documents pour encourager la participation. Mais bien sûr, il est difficile de les convaincre. Il est difficile d'exprimer un message commun. C'est un processus complexe parce que les questions sont complexes. En fait, les gens ne comprennent pas ce qui se passe. Et à l'IANA, nous continuons à travailler, mais nous faisons ce que nous pouvons pour contribuer, pour investir les gens au sein du processus. Nous fournissons des commentaires à notre communauté par le biais de la CCNSO. Et nous continuons de communiquer notre point de vue. Mais vous avez raison, Mike, il est très difficile de s'assurer que tout le monde est au courant, que tout le monde est au clair par rapport à ce qui se passe. Mais nous avons fait des efforts dans ce sens, non seulement au niveau de la CCNSO, mais également au niveau régional. Et je dois vous dire que nous avons énormément travaillé.
Byron au micro, oui. Steve, vous souhaitez intervenir? Steve Crocker au micro, oui. Le chiffre que vous avez mentionné me paraît bon, en tout cas pour moi. 155 gestionnaires de CCTLD qui font partie de la CCNSO, c'est ça? Byron Holland au micro, oui. En termes de CC, il y en a environ 250 en tout, donc pour 193 pays, parce que il y en a 250, donc. Steve au micro, oui. Est-ce qu'il y a des chevauchements ou parce que en raison des IDN? Byron Holland, non, pas encore. Steve au micro, oui. Donc vous dites 250 et quelques. 155 sur 250, donc ça fait plus de 60%. Donc, ce qui vient aussi bien du point de vue de leur perspective que de celle de l'ICANN, donc du point de vue de leur perspective, quel est leur point de vue? Pourquoi est-ce qu'ils ne participent pas? C'est trop onéreux? Ce n'est pas significatif pour eux? Est-ce qu'ils n'obtiennent pas les services qu'ils souhaitent obtenir, des activités régionales, etc.? Et du point de vue de l'ICANN, pourquoi? Qu'est-ce qui fait que l'on n'obtient pas les résultats escomptés dans ce domaine? Byron Holland au micro, je ne pense pas que je puisse parler au nom de toutes les personnes qui ne font pas partie de la CCNSO. Toutes les réunions sont ouvertes, ce n'est pas onéreux, en tout cas je le pense, parce que ce sont des contributions volontaires au sein de l'ICANN. Et la barrière pour entrer est extrêmement faible, il suffit simplement de lever la main et dire « voilà, je veux participer, devenir membre ». Donc, je ne pense pas qu'il y ait des barrières logistiques ou pratiques qui expliquent le fait que les gens ne viennent pas, qu'il s'agisse de gouvernement ou de membres de la CCNSO, je ne sais pas. Il y a toute une série de gestionnaires de CCTLD qui administrent des CCTLD avant de participer à l'ICANN, donc peut-être qu'ils ne veulent pas officiellement participer, ça peut être une raison. Nous représentons environ 70% des gestionnaires de noms de domaine, donc ça c'est un pourcentage élevé en termes, en tout cas, de représentation de titulaires de noms de domaine, et il y a 5 à 6 ans, nous étions 40 membres. Aujourd'hui, nous sommes 155. Donc, il y a réellement une évolution dans la volonté de faire partie de cette organisation. Et il y a beaucoup de gens qui siègent à la CCNSO et qui participent activement, même si Et même au sein du CWG et du CCWG, même si nous, à la CCNSO, nous avons la responsabilité d'y participer, nous disons bien clairement que nous y participons, mais pas comme membres de la CCNSO, et que le coprésident CC du CWG n'est pas un membre de la CCNSO. Donc, l'un des rôles les plus importants ici, c'est qu'il ne s'agit pas d'un membre de la CCNSO. Et nous, en tant que communauté, nous sommes d'accord avec cela. Peut-être que certains d'entre vous connaissent Paul Kane. Il s'agit d'un membre très actif du CWG au nom de la CCNSO, qui travaille énormément sur la question des SLE. Donc là encore, en tant que communauté, nous sommes très ouverts vis-à-vis des autres membres et nous voulons qu'ils participent. Giovanni, puis Fadi et Becky. Giovanni, oui, j'aimerais intervenir une seconde parce que je pense que vous avez posé la question, vous avez obtenu une réponse, mais maintenant on est en train de rentrer dans des détails internes de participation, ou plutôt de personnes qui sont membres et pas membres. Je crois qu'il faut s'en tenir à la question qui nous concerne. Byron Harland au micro. Oui, j'aimerais également vous soumettre des faits. Nous avons un site web à la CCNSO pour que tout le monde puisse voir ce qui s'y passe. Nous avons un catalogue qui concerne les efforts de sensibilisation. Il est un peu épais, mais pour ceux qui veulent obtenir des faits et des détails, il y a 9 pages détaillées sur les efforts de sensibilisation que mène la CCNSO. Giovanni au micro, oui. Effectivement. J'aimerais dire que nous avons beaucoup fait pour les efforts de sensibilisation depuis les 2 dernières assemblées générales et sur la discussion sur la transition IANA et la responsabilité. Je pense qu'à un certain moment, il faut reconnaître que les processus sont relativement complexes. Et là, nous sommes face à des CCTLD qui ont différentes structures, différentes chartes organisationnelles. Certains sont des petits CCTLD. Donc, effectivement, il y a plus de 250 CCTLD, y compris les CCTLD IDN, dont la plupart sont constitués de 5 personnes au maximum. Donc, il faut qu'ils consacrent la plupart de leur travail à essayer de faire des efforts de sensibilisation. Et je ne sais pas ce qu'on peut faire de plus. Il y a une petite chose qui, dans un avenir proche, devrait être faite. Et ça, c'est reflété dans le commentaire. C'est-à-dire essayer de simplifier certains concepts et les rendre plus accessibles et lisibles aux yeux des communautés plus larges. Par exemple, l'utilisation de plus de 3 millions d'acronymes en partant du principe que tout le monde connaît ces acronymes. Il faut que ce soit plus accessible parce qu'on pourrait davantage faire avec plus de simplicité. Fadi au micro, oui, j'aimerais revenir sur le fond de votre deuxième point qui figure à l'écran. Je suis d'accord avec vous, Byron, les efforts qui ont été faits sont extraordinaires en termes de sensibilisation. Je pense que personne ne peut remettre en question que vous n'avez pas fait un effort de sensibilisation. Ça, c'est tout à fait louable et j'aimerais reconnaître l'expansion et l'évolution incroyable de la CCNSO. Mais pour en revenir au fond de cette question, j'ai 2 questions que peut-être vous allez pouvoir nous rassurer. La CCNSO, à l'instar des autres organisations, a un objectif très important cette semaine, c'est-à-dire voir le CWG et essayer de le faire avancer. Vous, en tant que président, quelle est votre opinion par rapport à la proposition du CWG? Est-ce qu'on va pouvoir avancer avec l'aval de la CCNSO? Deuxième question, un petit peu plus subtile, par rapport au travail du CCWG. L'une des préoccupations qui apparaît par rapport au changement de l'équilibre des pouvoirs des gouvernements au sein de l'ICANN. Donc, là, je ne fais aucun commentaire ou je ne vous demande pas de faire de commentaires sur les propositions parce que on en est à un stade trop embryonnaire encore. Mais en cas de changement dans l'équilibre des pouvoirs de gouvernement à l'ICANN, que ce soit vers le haut ou vers le bas, quel est votre point de vue, le point de vue de la CCNSO et l'impact sur la transition? Byron Harland au micro. Oui, par rapport à la première question, quel est mon sentiment? Et là, je m'exprime en tant que président de la CCNSO. J'aimerais pas tomber dans un cliché, un lieu commun, mais je suis optimiste, mais prudent. Nous avons eu plusieurs séances sur 2 jours dédiées à cette question. Donc, mon sentiment aujourd'hui, c'est qu'il y a certaines questions en suspens, mais ces questions sont mineures. Et je pense que nous avons trouvé les moyens plus ou moins de les résoudre. Mais il y a des questions de fond beaucoup plus importantes. Donc c'est pourquoi j'ai dit que je suis optimiste mais prudent. Vis-à-vis du fait de savoir si nous allons pouvoir parvenir à une décision d'ici mercredi 17h. Pour ce qui concerne votre deuxième question, sur ce point, je ne suis pas à même de répondre à cette question. Parce que nous ne pouvons pas réellement saisir le fond de votre question au sein de la CCNSO. Donc, en l'état actuel des choses, je ne peux pas y répondre. Byron, merci beaucoup. J'aimerais, autre intervenant au micro, j'aimerais parler du CCWG et de la préoccupation par rapport à la proposition du CCWG que nous avons vue hier. Par rapport au service clientèle et ce qui concerne, par rapport à ce qui concerne la révision des fonctions IANA, nous avons tenté d'intégrer toutes les parties prenantes de l'ICANN sur la liste. Mais il semblerait qu'il faut prendre en considération, avec un soin particulier, 2 questions. Quel type de fonctions IANA veulent-ils réviser? Donc, au sein du CCWG, oui, du CWG, pardon, ils ont dit hier qu'ils n'allaient pas toucher aux chiffres ni à tout ce qui concernait l'IETF. Et moi, d'après ce que j'ai compris, c'est qu'un membre du CWG m'a dit que on peut résoudre cela de 3 manières. L'un avec l'IETF, une équipe avec la communauté des nombres et l'autre avec les noms. J'ai été président de l'IANA pendant plusieurs années et le bureau IANA ne fonctionnait pas de cette façon. Deuxième question, lorsqu'on parle de l'équipe de révision des fonctions IANA, je pense qu'ils essaient de faire la liste de toutes les parties prenantes pour essayer d'atteindre un certain équilibre. Mais lorsque j'étais président du comité IANA, lorsque le bureau IANA m'envoyait le travail, ça ne me prenait pas plus de 3 jours pour voir si le processus était respecté. Donc il s'agissait de contrôler le bon déroulement du processus. Et je suis réellement préoccupée si quelqu'un pose une question, alors on va continuer à ralentir le processus des opérations IANA. Et ça, ça n'est pas une bonne chose, en particulier pour la CCNSO ou pour les opérateurs de registre GTLD. Parce que lorsque vous changez une organisation ou une institution, ça prend plus de temps. Je vous l'ai dit, ça me prenait 2 ou 3 jours pour faire ce travail, parce que il y avait 12 personnes et très souvent vous ne voyez même pas comment travaillent ces personnes. Et de mon point de vue, ce n'est pas une bonne chose pour les communautés liées à la nomination. Pour ce qui concerne le service clientèle et toutes les questions qui y sont liées, il y a un dialogue très limité avec l'IANA. Et j'ai l'impression que la conception PTI et tout ce qu'a la communauté des nombres et tout ce qu'a la communauté des noms, on le veut. Et ça rend les opérations PTI très complexes. Et je pense que ce n'est pas une bonne chose du tout pour les communautés de noms. Parce que si vous regardez la proposition de l'IETF et la proposition hier, c'est très simple. Alors, dans la proposition, si la liste, les opérations de la liste IANA deviennent très politiques et très sophistiquées, très difficiles, alors elles deviendront dangereuses pour toute la communauté ICANN et pour nous tous. Baron, oui, merci. Huawei, c'était Huawei au micro. Effectivement, je vais essayer de faire 2 commentaires brefs. L'un sur l'idée que l'IANA est divisée dans des groupes fonctionnels différents, et ça c'est difficile pour moi de faire un commentaire là-dessus. Ça a à voir avec une décision interne de gestion IANA. Pour ce qui est de la phase de mise en œuvre, là, ça sera pour la prochaine phase. Mais bon, je prends bonne note de votre commentaire et de votre préoccupation. Pour ce qui est de la période de 2 ans avant que l'IRT fasse une révision, donc effectivement, je suis sûre que le personnel IANA sera affecté par cela. Et je suis sûre qu'au sein du CWG, il y a l'idée selon laquelle il y aura un contrôle régulier. Mais est-ce que ce contrôle aura un poids significatif ou pas? Ça, c'est une autre question. Je vois que Giovanni a quelque chose à dire par rapport au SOPWG, donc groupe de travail sur la planification stratégique et opérationnelle. Giovanni au micro, oui, je vais essayer d'être très bref. Donc, nous avons un groupe de travail sur la planification stratégique et opérationnelle. Nous avons soumis nos commentaires à la fin avril et nous avons lu avec grand intérêt les commentaires reçus dans la période de commentaires publics. Et au début juin, nous avons publié ces commentaires. Donc nous avons reconnu que ces commentaires étaient très positifs par rapport au développement et à l'évolution de la mise en œuvre de cette planification, et qu'il y avait plus de cohérence par rapport à la planification précédente. Donc il y a un bon flux d'informations entre l'ICANN et la communauté. Il y a un point que j'aimerais souligner, à savoir que dans le contexte des discussions de la transition IANA et de la responsabilité, peut-être que le fait qu'il y a eu beaucoup de progrès dans ce domaine de la part de l'ICANN est un petit peu passé sous silence. Donc, pendant cette présentation, il faudrait saluer l'ICANN qui est disposé à donner à la communauté toute une série de contrôles vis-à-vis des objectifs fixés par l'ICANN. Cela étant dit, dans nos commentaires, et on l'a fait pendant de nombreuses années, nous avons souligné que nous aimerions qu'il y ait plus de mesures et de chiffrages dans les différentes actions. Et nous avons eu plusieurs téléconférences et la réunion de la CCNSO dimanche dernier nous a montré que l'ICANN travaille et va faire en sorte que cela se produise dans un avenir proche. Nous avons également recommandé à l'ICANN d'être un petit peu plus prudent pour ce qui concerne les recettes et les projections de dépenses. Il semblerait qu'il y ait une augmentation des dépenses. Il y a certaines estimations concernant les recettes. Donc là encore, notre groupe de travail a insisté sur ce point. Nous avons demandé au personnel de l'ICANN d'être un petit peu plus prudent s'agissant de ces prévisions. Enfin, dernier point, et là je demande au conseil d'administration d'aider Xavier et son équipe, c'est de l'aider à transmettre la culture de gestion de l'ICANN, parce que c'est très important. Si on regarde ce qui se passait il y a 5 ans, le changement est notable. Là encore, dans le cadre de la transition IANA et de la responsabilité, de la transparence, pardon, là encore, je le répète, il faudrait que cette évaluation soit plus stable et régulière. Ce qui ne veut pas dire que cette culture n'existe pas, mais il faut que cette culture soit plus vigoureuse. Dernier point, nous avons invité Xavier et son équipe à s'assurer à ce que lors du prochain exercice de révision du plan stratégique 2016 et de l'exercice fiscal 2017, de prêter une attention plus spécifique aux différents scénarios qui pourraient avoir lieu dans le cadre de la transition IANA et du mécanisme de responsabilité. Donc voilà un petit peu le résumé de ce dont on a parlé. Et là encore, j'aimerais insister sur les échanges de points de vue extrêmement constructifs et riches qui ont eu lieu entre le personnel ICANN. Et ça, depuis 5 ans. Et réellement, c'est très enrichissant. C'est une approche différente, un point de vue différent. Et je félicite le personnel ICANN pour cela. Byron, merci Giovanni. Merci Giovanni, je me félicite d'entendre cela. Ce que dit l'ICANN aussi, Marc Salvatierra au micro. c'est la contribution de la CCNSO et de l'équipe. Parce qu'ils ont trouvé des mécanismes très importants et il semblerait que un certain nombre de membres de la communauté peuvent suivre sous votre direction ce mouvement. Donc, excellent travail que vous avez effectué. Nous l'apprécions énormément. Par rapport au fait de se concentrer sur les résultats et les mesures, ça, c'est quelque chose qui tient très à cœur de Fadi. Et c'est très important également du point de vue du Conseil, parce que c'est quelque chose qui nous préoccupe. À savoir que nos processus de planification et de budget doivent être aussi bons que le reste. Donc c'est quelque chose qui nous préoccupe beaucoup au comité du Conseil d'administration et du comité d'administration, du Conseil d'administration dans son ensemble. Donc, il faut voir ce qui se passe et avoir un retour d'information sur les cycles en cours en termes de planification, sur les normes appropriées pour mesurer, etc. Et ce que j'apprécie réellement, c'est que la CCNSO n'a cessé d'insister sur ces questions. Parce que je pense que la contribution faite par ce groupe de travail a réellement aidé à ce qu'on avance sur plusieurs de ces questions. Merci Mike. Baron au micro. Y a-t-il d'autres commentaires, questions là-dessus? Autre point peut-être, question d'hiver, Steve? Steve Crocker au micro, oui. J'aimerais prendre 2 minutes pour vous remercier de cette séance. Et comme je l'ai dit au début, vous demandez un retour d'information sur cette expérience, sur le format de cette expérience et comment cette expérience fonctionne. Vous êtes un petit peu ceux qui mesuraient de manière indépendante et externe. Et vous nous donnez des idées beaucoup plus riches que si vous étiez totalement interne et que vous faisiez totalement partie d'une culture unique à l'intérieur de l'ICANN. Baron, merci beaucoup de ces gentils mots, Fadi. Oui. Fadi au micro, j'aimerais dire aussi que votre véritable indépendance, c'est un atout. C'est notre atout. Et nous le valorisons beaucoup. Et je vous invite instamment à l'utiliser dans cette période de transition importante. Parce que vos points de vue indépendants vont contribuer à nous aider à avancer avec votre approche sage et équilibré. Et ça, c'est critique pour l'ICANN. Donc, je vous invite à être très actif. Et ma question quant au rôle des gouvernements à l'ICANN est très directe et s'applique à toutes les parties prenantes de l'ICANN. Donc, merci de nous avoir aidés en cette période. Il est temps maintenant, on n'a pas beaucoup de temps entre maintenant et Dublin. Donc merci de votre contribution, de votre indépendance et je vous demande d'être aussi actif que vous l'avez toujours été pour continuer à avancer sans menacer l'équilibre délicat que l'on a réussi à atteindre aujourd'hui. Merci beaucoup, Dee Byron, et merci à tous les membres du Conseil.